BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à l'ADEME avec son président Sylvain Waserman pour faire le point sur la transition en cette début d'année. Est-ce que la France est en train de caler? Est-ce que les entreprises ont toujours envie d'y aller? Est-ce que 2025 va être une mauvaise année pour le climat? Les réponses dans un instant du patron de l'ADEME. Et puis, comme on se laisse jamais abattre dans BFM Climat, nous parlerons ensuite du numérique. Comment intégrer les limites planétaires dans les modèles d'affaires du secteur? Comment contenir la facture carbone du numérique à l'heure de l'IA? On en parlera avec deux dirigeants de SN qui ont fait basculer leur entreprise, Thomas Brezard chez Norcis et Étienne Besançon de Constellation. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à l'ADEME retrouver son président Sylvain Waserman qui nous a accordé une interview exclusive en ce début d'année pour faire le point sur la transition et avec évidemment beaucoup de questions à lui poser. Bonjour Sylvain Waserman.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici dans vos locaux à l'ADEME. Donc vous êtes le président. L'ADEME, je le rappelle, c'est l'agence de l'État chargée de la transition écologique. On est là justement pour parler de cette transition, justement de cette année 2025. On voit qu'il y a beaucoup de vents contraires face à cette transition. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, puis surtout ce que les entreprises vous disent. Je voulais juste quand même d'abord vous faire réagir à ces critiques de Valérie Pécresse et Gérard Larcher contre votre agence. À part revenir sur la polémique, parce que vous avez déjà répondu sur le fond, mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce type d'attaque, c'est symbolique des attaques qui se multiplient en ce moment contre le climat? Est-ce que pour vous, le climat, c'est devenu l'homme à abattre?
Je crois que vous posez la question de fond. Le sujet, c'est pas de défendre l'ADEME en tant que tel. Les budgets, c'est pas les budgets de l'ADEME qu'on dépense comme on veut. Les budgets, c'est les budgets que l'État consacre à la transition écologique, auprès du monde économique et auprès des collectivités. Donc je crois que c'est ça le cœur du sujet. C'est est-ce qu'on estime que l'État s'engage trop aux côtés des entreprises, aux côtés des collectivités qui pilotent des projets de transition écologique, ou est-ce qu'on considère que l'ADEME fait mal son boulot? Sur le premier sujet, c'est aux parlementaires de décider. Hein, c'est le gouvernement et les parlementaires qui décident des budgets sur la transition écologique. Mais ce que je voudrais rappeler, et ça c'est démontré par toutes les études, c'est qu'il vaut mieux investir aujourd'hui que mettre la tête dans le sable, attendre que ça se passe et penser que ça ira mieux demain. Et on parlera beaucoup du monde économique, j'espère, parce que c'est un acteur déterminant qui, aujourd'hui, un chef d'entreprise, il est confronté à ça. C'est qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que j'attends que ça passe ou est-ce que j'agis? Et il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont tout à fait compris que la décarbonation de leur processus, c'est pas juste pour faire plaisir à la planète. Bien sûr, certains se disent c'est un engagement sociétal que je dois faire. Enfin, c'est aussi une question cœur de métier. Je donne un exemple tout simple. J'étais dans l'Orne récemment. Un verrier, une entreprise de verrerie de génération en génération. Il me dit, 70% de mon chiffre d'affaires, c'est l'industrie du luxe. Ils m'ont écrit en me disant, en 2030, on sera totalement décarboné. Donc nos sous-traitants le seront aussi. Donc ce sera avec vous ou sans vous. Mais pour ce chef d'entreprise, c'est pas une question de la planète, machin. C'est, je suis out of business si j'ai pas décarboné mon processus. Donc, on a un sujet qui se rapproche du cœur de la stratégie des entreprises, et c'est ça qu'on accompagne concrètement sur le terrain.
Est-ce que, parce que évidemment, sur BFM Climat, on a compris depuis longtemps que le climat était devenu partie intégrante du modèle d'affaires des entreprises pour qu'elles puissent être là encore dans les années et les décennies à venir, mais vous voyez bien tous les vents contraires qu'il y a en ce moment. Comment est-ce que vous expliquez ce retour de bâton? En France, en Europe, évidemment, je ne parle même pas aux États-Unis avec Donald Trump.
Je crois qu'il y a deux choses.
On ne peut pas nier tous ces vents contraires.
Non, mais absolument.
Et donc, comment vous expliquez ce retour de bâton?
Alors, moi, j'aurais bien distingué deux choses. On a parfois l'impression, complètement fausse, qu'on est les seuls associés du climat. Les États-Unis, n'oubliez pas, 400 milliards de dollars qui ont été investis dans le verdissement de leur économie, dans les entreprises qui se décarbonent. 400 milliards de dollars. N'oubliez pas que la Chine, ils ont plus de panneaux solaires en Chine que dans toute la planète réunie. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'ils utilisent plus d'énergie, trois quarts de cette énergie, elle est décarbonée. Parce que le moment va venir où les Chinois vont débarquer en disant « Au fait, on sait que vous vous souciez du climat. Ben, ça tombe bien. Nos produits, ils sont plus décarbonés que les vôtres. » Et qu'est-ce qu'on répondra à ce moment-là? Vous voyez, c'est un sujet d'avantage concurrentiel ou de risque concurrentiel pour les entreprises. Il se trouve que la France a une chance incroyable, c'est que son électricité est totalement décarbonée. Donc quand vous avez un processus industriel qui passe du gaz à l'électricité, 100% des euros que vous investissez là-dedans, ça décarbone. Si vous faites ça en Allemagne, c'est 75% utile parce que 25% de l'électricité elle est carbonée. Si vous le faites en Pologne, c'est 40% utile. Donc on a cette chance, on a cet avantage concurrentiel. Donc je crois que dans la concurrence internationale, la vraie question que se pose le chef d'entreprise aujourd'hui, c'est comment je peux transformer tous ces efforts de décarbonation, par exemple, en un avantage concurrentiel. Le rôle de l'ADEME, c'est de les accompagner. Je vous donne un exemple très simple. Nos ingénieurs ont travaillé sur une méthodologie pour pouvoir mettre une note sur un plan de décarbonation, l'évaluer sérieusement, scientifiquement. D'accord. La Banque de France, qui a évalué toutes les méthodologies, a dit « c'est la meilleure ». On a signé avec le gouverneur de la Banque de France une convention pour développer, pour soutenir cette méthodologie. Et c'est quoi cette méthodologie ? C'est une possibilité pour que les entreprises se disent « j'ai un avantage concurrentiel à portée de main, je vais m'en servir ».
Alors, puisque vous parlez de la France, on voit bien que les émissions continuent de baisser, mais que ça ralentit cette année, ça va être moins fort que l'an dernier. On a même vu qu'au troisième trimestre, c'est un tout petit peu reparti à la hausse. Est-ce que la France est en train de caler ?
Je ne crois pas. Le chemin est difficile. Pour la première fois l'an dernier, on a atteint nos objectifs de la trajectoire des accords de Paris, avec moins 5,8%. Ouais. On attend les résultats définitifs pour 2024, qui ne sont pas encore connus. C'est vrai que le rythme se ralentit. Il faut savoir aussi que c'est moins facile que dans d'autres pays, parce que, comme je le disais, notre électricité est déjà totalement décarbonée. Donc c'est moins simple que d'arrêter un peu moins de charbon, etc. Parce qu'on est déjà totalement, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, on est déjà totalement décarboné en électricité. Mais voilà, le chemin est difficile. Des défis comme cela, on ne peut pas les relever les bras baissés. Donc il faut se battre, il faut agir. Et ce que je voudrais vraiment dire, c'est que plus que jamais, aujourd'hui, les entreprises ont besoin de l'État. Ils ont besoin de l'État pour les accompagner en expertise et en financement dans leur décarbonation.
Alors justement, toutes les entreprises, parce que vous en accompagnez des milliers à l'ADEME, qu'est-ce qu'elles vous disent pour cette année ? Est-ce qu'elles veulent lever le pied ? Est-ce qu'elles veulent faire une pause sur la transition ? Ou est-ce qu'elles veulent continuer à y aller ?
Tous les projets d'entreprise aujourd'hui sont quand même dans une logique un peu d'attentisme, parce que la situation de la France n'est pas stable aujourd'hui avec l'environnement national. Sur la transition écologique, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « bon, je reste mobilisé, je regarde à quel moment j'investis ». Donc nous, on continue à se préparer, à les accompagner pour que le moment où ils décideront de leur investissement, le moment où ils franchiront le pas, on soit à leur côté. En tout cas, cette période d'attentisme, elle ne peut pas durer longtemps. Vous savez, on avait l'impression de ne pas avoir de budget de l'État, ce n'était pas grave. En fait, si, c'est grave. Donc j'espère que le gouvernement
la situation politique pèse aussi sur les investissements de transition des entreprises.
Je pense que vous êtes bien placé pour savoir qu'aucune entreprise n'aime l'instabilité, le questionnement, censure ou pas censure. Non, donc il faut souhaiter que le gouvernement puisse amener de la stabilité. En tout cas pour la transition écologique, c'est un sujet évidemment de long terme, c'est un sujet planétaire. Donc vous savez, la planète, elle se soucie peu de tel ou tel épisode ou telle conjoncture. Mais les entrepreneurs, ils ont besoin de cette visibilité.
D'accord.
En tout cas, nous, ce qui est certain.
Donc vous dites, vous voyez en ce moment une pause.
Il ne faut pas dire une pause, mais évidemment une inquiétude de la part de beaucoup d'entreprises. Mais enfin, vous le voyez aussi tous les jours. Surtout leurs projets.
Okay. Donc même les projets climatiques.
Hier, j'étais dans les Hautes-Pyrénées. On accompagne une scierie qui va quasiment doubler son activité en se disant il faut que cette activité elle me permette d'optimiser mes coupes de bois pour qu'il y ait moins de déchets de bois, qu'il soit plus efficace. Ça a des impacts environnementaux très positifs, donc on les accompagne là-dedans. Eux, ils ont décidé de franchir le pas, et c'est l'accompagnement de l'ADEME qui a fait, ils l'ont dit hier très clairement, c'est l'accompagnement de l'ADEME qui fait que, allez, ils ont franchi le pas. Parce qu'ils savent que quand il y a de l'argent public bien investi, il est précieux. Et puis, c'est l'occasion d'y aller. Donc, je crois que les chefs d'entreprise, vous savez, j'ai été chef d'entreprise pendant 8 ans. Je sais la difficulté de prendre une décision d'investissement, de s'engager dans le long terme. Ceux qui le font le mieux, peut-être, c'est les entreprises familiales. Vous savez, ces ETI qui sont très ancrées dans leur territoire, qui réfléchissent à la génération d'après. Donc, eux, évidemment, qu'il y ait un gouvernement ou pas, qu'il y ait un budget ou pas, eux, ils réfléchissent au long terme. Je crois aussi que c'est le moment, plus que jamais, où l'État, nous, on est une agence de l'État, les régions également, doivent être aux côtés des entrepreneurs.
Toute dernière question, Sylvain Waserman, puisque vous parlez d'argent public, il y en a de moins en moins. Est-ce que les entreprises doivent se faire à l'idée qu'il y aura de moins en moins d'argent public pour les accompagner dans la transition ? Qu'elles vont devoir se débrouiller toutes seules à l'avenir ?
Alors, Se débrouiller toute seule. Vous savez, les chefs d'entreprise, ils mendient jamais des subventions. Les chefs d'entreprise, ils ont besoin d'être accompagnés en expertise, en ingénierie, en financement aussi. Vous savez, sur la décarbonation, il y a eu des annonces importantes du gouvernement actuel. 1 milliard d'euros notamment pour aider les entreprises à se décarboner par le ministre de l'Industrie, M. Ferracci. Donc je crois qu'ils peuvent compter sur un État qui ne s'est jamais autant investi qu'aujourd'hui dans la transition écologique. Moi, mon job, c'est de faire en sorte que chaque euro d'argent public est bien investi, que le projet soit utile, qu'il soit efficace en termes climatiques, en termes de tonnes de carbone économisées. Donc ça, c'est mon job. Après, les parlementaires décident de l'implication de l'État, du budget qu'ils consacrent à la transition écologique. Moi, mon point, pour avoir été chef d'entreprise,
ce sera le mot de la fin.
Mon point, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin qu'on soit à leur côté. Toutes les femmes et les hommes de l'ADEME sont là pour les accompagner sur le chemin de la transition écologique.
Merci Sylvain Wasserman.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis ici dans vos locaux à l'ADEME.
Retour en plateau et on va s'attaquer, on va dire ça comme ça, s'attaquer à l'empreinte carbone du numérique avec deux dirigeants qui ont bousculé leur entreprise et leur modèle d'affaires pour intégrer les limites planétaires. Bonjour Thomas Brozard.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes le directeur de l'entreprise de services numériques Norcis et avec vous Étienne Besançon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes le président fondateur d'une autre SN, Constellation. Messieurs, vous le savez mieux que moi puisque c'est le secteur dans lequel vous naviguez. Le numérique, c'est l'ennemi invisible du climat. On le voit pas et pourtant c'est à lui tout seul 3-4%, ça dépend des calculs, des émissions de CO2 du pays. Très concrètement, et avant même de parler d'IA, 3-4%. Qu'est-ce que vous avez changé concrètement dans vos entreprises, dans vos modèles d'affaires, pour intégrer les limites planétaires et contenir donc la facture carbone de vos entreprises ? Thomas Brozard.
Alors Norcis, donc qui est dirigé par Mathilde Durie. Hein. Moi, je travaille avec elle, mais je suis pas le dirigeant, on va dire à proprement parler de Norcis, qui a été créé en 94, mesure depuis 2007 les émissions de CO2. D'accord. Donc déjà, ça commence par là. Déjà, savoir où on se situe et ça nous offre un certain recul le fait de le faire depuis aussi longtemps. Maintenant, il est clair que le numérique, dans son caractère très exponentiel, commence à montrer des limites au regard des ressources planétaires disponibles. Donc nous, aujourd'hui, ce que l'on essaie de faire, c'est d'intégrer dans le modèle économique les dimensions d'empreinte environnementale, l'impact carbone des services que l'on conçoit, les analyses du cycle de vie de ces services que l'on conçoit, et puis jusqu'à plus récemment, inventer un modèle de développement de l'entreprise qui lui-même est basé sur la notion de limite planétaire, basé sur le modèle Permacol en l'occurrence, qui s'appelle la Perma-entreprise et qu'on déploie depuis 4 ans.
D'accord. Et alors, très concrètement, ça s'est traduit par quel type de changement chez vous ?
Alors,
on voit bien, voilà, vous essayez d'intégrer tout cet environnement-là, tout ce contexte-là, tout ce cadre-là, on va dire, climatique. Ça s'est traduit concrètement par quel changement dans la conduite de votre entreprise, alors, modèle d'affaires ?
Aujourd'hui, on conduit ça avec la stratégie Net Zéro Initiative, qui a en gros 3 piliers. Déjà, réduire sur son propre périmètre. Donc, on réduit par nos opérations, mais de plus en plus aussi, on est vigilant sur les impacts à travers le business. Donc, on fait des choix aussi de projets, et parfois, on renonce à des projets qui seraient trop générateurs de gaz à effet de serre.
Ouais.
Avec néanmoins des rebonds intéressants, je pense qu'Étienne pourra en témoigner aussi, c'est des évolutions dans les partenariats que l'on noue avec nos clients pour aller vers des projets de nature un petit peu différente. Ensuite, c'est de contribuer à une réduction plus large, au-delà de notre propre périmètre, autour du sujet du dérèglement climatique. Donc là, on va par exemple financer des projets de transition, de décarbonation, et enfin, c'est ce qu'on appelle la compensation. Donc là, c'est plutôt des projets de séquestration de carbone à très long terme, le développement de forêts ou la préservation des forêts existantes. D'accord. Voilà les 3 axes sur lesquels on peut travailler en particulier.
D'accord, et ça fait déjà du boulot, effectivement. Même question pour vous, Étienne Besançon.
Oui, on a eu un peu la même démarche, puisque on a le pilier A, les réductions propres, le pilier B, les réductions qu'on peut engendrer chez nos clients, et le pilier C, la compensation. Nous, on s'est d'abord focalisé sur le pilier A, puisque on a découvert le sujet le 17 février 2021, lors d'une fresque du climat avec le CODIR de Constellation.
D'accord.
Où tout le monde s'est dit, il faut qu'on intègre ça dans notre business, on ne peut plus rester aveugle.
D'accord. Et donc, les changements. C'était le jour de la bascule chez vous.
Le jour de la bascule, le 17 février 2021.
Et alors, donc concrètement, qu'est-ce qui a basculé ?
Et donc concrètement, on a nommé un Chief Impact Officer, on s'est formé avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, on a sensibilisé l'ensemble de nos collaborateurs, donc 800 collaborateurs, à la fresque du climat, à la fresque du numérique.
Ouais.
On a formé un certain nombre d'architectes pour pouvoir créer des nouvelles offres, parce qu'effectivement, faire du business as usual dans l'IT, globalement, une entreprise de service, c'est 10% de son bilan carbone, ses propres émissions, mais tout le reste est en amont et en aval.
Ouais.
Et donc, il faut intervenir
sur l'ensemble, les parties prenantes.
Exactement. Il faut intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ouais. Comment on sensibilise notre écosystème et notre environnement. Et par rapport à Norcis, on en parlait tout à l'heure, le service est assez faiblement carboné, mais le négoce, quand on vend des matériels, c'est très fortement carboné parce qu'il y a du coup des extractions de minerais, etc., etc. Ouais. Donc, on essaie d'intervenir au plus tôt dans la chaîne de valeur et ça veut dire modifier nos business models pour faire moins de négoces, plus de services, plus de circularité, c'est-à-dire remettre en service des matériels qui a priori devrait en être exclu parce que les éditeurs, les constructeurs n'assurent plus la maintenance, etc., etc. Donc on a racheté une entreprise qui fait du broc et de la maintenance et on a créé des nouvelles activités pour impacter, au-delà de notre propre périmètre, nos partenaires et nos clients. Et donc, on a créé une entreprise qui fait des bilans carbone. On est certifié par l'association Bilan Carbone. On a créé une entreprise qui outille nos clients pour accompagner leur trajectoire et leur plan d'action dans leur stratégie de réduction des gaz à effet de serre et plus largement de l'environnement et maintenant de la CSRD. Et donc, ça permet évidemment d'avoir un horizon beaucoup plus large que la partie numérique seule. Mais ça permet aussi d'engager l'ensemble de cet écosystème qu'on réunit une fois par an dans un événement qui s'appelle Tech for Climate, qu'on fera cette année le 11 juin, où il y a 1300 dirigeants qui viennent pour échanger sur ces bonnes pratiques et on essaye humblement de contribuer en témoignant de notre expérience.
C'est intéressant dans l'exemple d'Étienne et je pense que dans ceux qu'on peut partager aussi sur ce modèle de perma-entreprise dont on a fait un bouquin ou une plateforme qu'on va sortir là dans quelques semaines qui va s'appeler Mon ACV numérique pour permettre à tous les acteurs du numérique de mieux appréhender la question de l'analyse du cycle de vie des services.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'avoue humblement en faire partie, même si j'ai entendu le mot, perma-entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un modèle de développement pour que les entreprises soient viables dans un monde vivable, en tenant compte des limites planétaires, en sachant faire des choix de réajustement des modèles d'affaires, en sachant intégrer les dimensions de limites, de disponibilité des ressources, en accompagnant les équipes commerciales, en faisant de la formation, en mettant la visée régénérative dans les objectifs, c'est-à-dire pas juste réduire les impacts négatifs, parce qu'il y en a toujours, c'est de créer des impacts positifs. Et dans les exemples qu'on est en train de citer là, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est la notion de dépassement de fonction qu'on est en train d'aller chercher à travers nos propres activités qui sont source aussi des modèles d'affaires de demain. On est en train de planifier en maintenant des activités pérennes là sur du court terme et en planifiant au mieux la suite, la résilience de nos boîtes dans les années qui viennent. D'accord. Et je pense que toutes celles et ceux qui ne s'en saisissent pas maintenant vont perdre demain et demain c'est de plus en plus proche.
Proche, ouais. Et alors là-dedans, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça implique donc dès aujourd'hui de renoncer à du business, de lâcher des clients, de lâcher des missions. Ça, c'est quelque chose d'anecdotique chez vous ou de frappant.
Tout sauf anecdotique et lâcher des clients, c'est peut-être dit de façon un petit peu trop brutale parce qu'en réalité, le but c'est pas de lâcher des clients ou des secteurs d'activité.
Non, mais de faire des choix.
On ne réussira la transition que si on arrive à accompagner ceux qui doivent le plus changer. Donc moi, le sujet que j'ai chez Nursys et je pense qu'Étienne c'est pareil, c'est de créer les conditions pour que les missions que l'on réalise pour des clients qui ont besoin de faire leur transition soient des projets de transition et soient pas des projets de maintenance de leur modèle d'affaires actuel qui eux sont trop carbonés.
Je suis complètement d'accord et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui peut opposer, c'est de dire je ne travaille pas avec des gens qui sont fortement carbonés. Mais c'est une erreur, parce que c'est ceux-là qu'il faut emmener dans la transition. Donc c'est au contraire...
Mais si vous n'arrivez pas à les embarquer.
Alors c'est ça le problème.
Effectivement,
c'est que souvent,
si on n'arrive pas à les embarquer, il y a un problème. Et donc dans ce cas-là, on doit renoncer à du business. Mais dans la plupart des cas, ces gens, quand on leur explique la démarche, ils sont tout à fait volontaires pour s'engager dans cette trajectoire. Et c'est là où
c'est
on a un rôle à jouer.
C'est intéressant, ça me fait penser à... J'ai reçu, c'était pour le premier numéro de BFM Climat, un autre patron de SN que vous devez connaître, c'est Bertrand Bailly chez Davidson. Et il dit, moi, par moment, je suis face à des platistes et je peux pas convaincre les gens qui pensent que la Terre est plate qu'elle est ronde.
Non, mais c'est
donc j'arrive
pas
à convaincre tout le monde non plus.
C'est pour ça que nous, on a eu des renoncements, là, ces 3, 4, 5 dernières années, et pas que pour des raisons climatiques, aussi pour des raisons de fiscalité d'un prospect ou des pratiques humaines qu'on avait perçues chez eux qui mettaient à risque nos équipes en prestation de service. Donc ça peut prendre différentes formes. Mais parfois, il faut savoir faire ce choix. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est que ce renoncement, ça nous a permis de dégager des ressources pour aller chercher d'autres potentiels. Et c'est peut-être un hasard si chez Nursys, depuis 4-5 ans, le secteur qui monte le plus, c'est celui de la transition écologique.
Oui, évidemment.
Et il y a aussi un aspect à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où on aligne la gouvernance, nous, on a changé d'actionnaire, on a changé de banque, on a changé de fonds de dette, on a indexé les bonus des dirigeants sur la trajectoire carbone et environnementale, on a indexé les P-plans des commerciaux sur l'empreinte carbone du mix produits-services qu'ils vendaient. Ouais. Donc à partir du moment où on fait un arbitrage, c'est dans la logique du P-plan et de la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup moins dur de prendre ces décisions-là. Évidemment, vous allez avoir un énorme problème si vous ne changez pas vos P-plans et que vous dites à tout le monde, faut baisser votre bilan carbone, mais vous continuez à les rémunérer pour aller en chercher. Donc, il y a un vrai sujet d'alignement stratégique pour que l'ensemble des parties prenantes soient orientées de la même manière.
Intéressant, ça se traduit très concrètement aussi par un changement de gouvernance et c'est pas anodin. Et alors vous, on en parlait avant le début de l'émission, Dans cette gouvernance-là, vous avez intégré la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, bah, intégrer la nature?
On parle beaucoup du climat et du carbone, c'est très à la mode, mais en réalité, c'est très lié à la biodiversité aussi. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est une première, au moins à l'échelle européenne, de ce que nous disent les experts, c'est de mettre en place une gouvernance qui donne sa place et une voix à la nature. Au sein du conseil d'administration, donc la nature devient actionnaire, a un siège au conseil d'administration, un droit de vote, voire un droit de veto.
Comment?
Alors, comment? Par un siège et un jeton de présence, en quelque sorte, au sein du conseil d'administration, alors qui n'est pas rémunéré, hein, mais par l'intermédiaire d'une personnalité,
d'accord,
qui est très experte des sujets de biodiversité et qui va donc représenter la nature et aura un droit de vote au même titre que n'importe quel autre membre du conseil d'administration. Mais on va aller un cran plus loin, c'est-à-dire que ça, c'est bien pour penser long terme, mais ça rentre pas dans les opérations du quotidien. Donc on va désigner, on est en train de les identifier, des experts, notamment externes, qui représenteront la nature au sein du CSE, au sein du conseil éthique, au sein du comité de mission, puisque nous sommes société à mission comme Constellation, par exemple, pour que cette voix soit beaucoup plus permanente. Et enfin, le CSE devient le CSEN. Et il y aura là aussi donc un représentant nature et des prérogatives pour que la biodiversité, nos impacts sur cette biodiversité et la nature soient beaucoup plus pris en compte. Ce sont les conditions de soutenabilité de nos activités à moyen terme qui sont en jeu.
Ok, bon, bah, le mot de la fin pour vous. Enfin, on voit bien, on vous entend tous les deux quand même, que vous avez engagé des choses assez pionnières.
Oui, et on pense que, exactement comme le disait tout à l'heure Thomas, la résilience de nos entreprises est en jeu. Donc si on ne le fait pas, et si nos partenaires ne le font pas,
ouais,
ils sont condamnés
sont
pour au moyen terme.
Ouais.
Un des messages que nous donnait le fonds d'investissement qui a investi dans Constellation en juillet dernier, c'est de dire que les multiples de valorisation des entreprises allaient baisser si elles n'avaient pas de stratégie climat. Et le Financial Times qui disait « If you don't have a climate plan, you don't have a business plan », a priori, c'est pas
des sujets qui traduisent en français. En fait, il est temps de placer le vivant avant l'argent, sans quoi je pense que l'argent fera pas long feu.
Bon.
Sans mauvais jeu de mots avec l'actualité.
Ce sera le mot de la fin et c'est un peu plus clair ce que nous dit le FT. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils et vos retours d'expérience extrêmement concrets. Je pense que ce sera très utile à tous ceux qui regardent l'émission. Thomas Brozard chez Norcis et Étienne Besançon chez Constellation. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, aujourd'hui, on est en édition spéciale sur les feux de Los Angeles et leurs conséquences terribles, avec pour commencer une particularité américaine qui rend les habitants particulièrement vulnérables, ce sont leurs maisons en bois.
Oui, on va essayer de vous parler de choses que vous avez peut-être pas vues ailleurs sur ces feux. Et la première chose, effectivement, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de maisons en bois. En 2019, 90% des nouvelles maisons construites dans ce pays étaient en bois. C'était même 95% quelques années auparavant. C'est ce qui explique les images que vous avez vues de quartiers complètement rasés, on dirait des scènes de guerre. On repère même plus les fondations des maisons. C'est parce qu'elles ont brûlé très très vite. Alors, pourquoi cette particularité américaine? Ça fait partie des taux les plus hauts du monde. Eh bien parce qu'en fait, ces maisons sont plutôt moins chères à construire, plus rapides. Et puis avec le temps, vous avez eu tout un réseau d'artisans, d'entrepreneurs qui savent travailler le bois. Et donc, les bascules de marché ne sont pas évidentes. Alors on pourrait se dire que dans des endroits particulièrement sujets aux feux de forêt, comme la Californie, après des catastrophes, on retient la leçon et on construit différemment. Mais en fait, pas vraiment, parce que les assureurs notamment incitent à reconstruire au moins cher, au plus vite, à l'inverse. Et évidemment, du coup, on le fait en bois. Alors il y a des solutions, on appelle ça le « build back better », reconstruire mais en mieux. Ça peut être par exemple des assureurs qui conditionnent leur remboursement à des constructions en béton. Gavin Newsom, le gouverneur californien, a fait des annonces qui allaient dans ce sens en début de semaine. À suivre donc.
Vous vouliez aussi nous parler, Antoine, d'une application que beaucoup d'habitants de Los Angeles ont téléchargée depuis 15 jours et qui s'appelle Watch Duty.
Oui, absolument. Watch Duty, ça a été téléchargé 1,4 million de fois en 48 heures au début des feux. C'est vous dire l'ampleur du phénomène. Il s'agit d'une application qui permet aux Américains de monitorer les feux de forêt quartier par quartier, de savoir s'il faut évacuer ou non. Vous pouvez même y trouver l'adresse du refuge le plus proche de chez vous. L'application est entièrement gratuite. D'ailleurs, elle est à but non lucratif. Elle repose sur des dons des utilisateurs qui permettent de financer ce qu'ils appellent des reporters. Les reporters, ce sont souvent des pompiers à la retraite qui monitorent les appels aux services d'urgence, les fameux 911, qui écoutent sur les radios les communications entre les pompiers et qui décident quel feu mérite d'être signalé par une notification aux utilisateurs de l'application. Alors, elle a été particulièrement importante, cette application, parce que il y a eu énormément de fake news sur les réseaux sociaux, pas mal d'images généré par de l'IA. Vous avez peut-être vu ce signe Hollywood en feu sur la colline, très symbolique. Évidemment, c'était faux, ça n'a pas brûlé de ce côté-là, il y a eu à peine un tout petit départ de feu. Il a donc fallu trouver un tiers de confiance, une application que les Américains pouvaient écouter, et ça a été cette application Watch Duty. Alors derrière l'application, un homme qui s'appelle John Mills. Il a créé l'application en 2021 après avoir eu la peur de sa vie. Il vit en Californie, lui aussi dans les montagnes. Sa maison a failli prendre feu en 2020. Il a créé l'application en moins de 3 mois. Ensuite, le bouche-à-oreille a fait son effet.
Ouais. Et pour finir, Antoine, vous nous parlez des pompiers de Los Angeles et des différences qu'il y a avec nos soldats du feu à nous en France.
Oui, alors les pompiers, c'est évidemment une partie très très importante de l'adaptation au changement climatique. La première chose très différente de chez nous, c'est qu'il existe des pompiers privés, comme leur nom l'indique. Ce sont des équipes que vous pouvez embaucher en tant que particulier un peu fortuné pour venir protéger votre maison. Ça coûte très vite très cher puisqu'on parle de 2 000 $ de l'heure en période de crise. Il y a d'ailleurs eu un scandale, un riche américain qui a posté sur X au début du feu en demandant des recommandations pour des pompiers privés en disant je paierai le prix qu'il faut pour protéger ma maison. Énorme scandale. Ouais. Depuis, il a supprimé son compte. Il faut garder en tête cependant que ce sont souvent les assureurs qui payent ces pompiers privés pour protéger les maisons les plus chères dont ils ont la garde et qui donc opèrent en parallèle des pompiers de Los Angeles. La deuxième particularité, c'est que dans ces pompiers, il y a aussi des détenus. Des personnes qui sont donc en prison. On en a à peu près 800 en ce moment qui combattent le feu auprès des pompiers. Sont payés entre 5 et 10 dollars de l'heure. Ça paraît très très peu vu les risques encourus. Vu de France, c'est assez étonnant, mais aux États-Unis, c'est un dispositif de réinsertion habituel. Tellement habituel que dans le livre dont je vous parlais la semaine dernière, Le Déluge de Stéphane Marclay, un des personnages principaux est sauvé par ces détenus reconvertis en pompiers temporairement d'un énorme incendie qui a lieu à Los Angeles, comme quoi malheureusement le livre était prophétique.
Et c'est bien pour ça que vous nous l'aviez conseillé. Le Déluge, donc, chez Albin Michel. Merci, merci beaucoup Antoine, et à la semaine prochaine. Merci à vous tous, bien sûr, qui nous suivez, qui nous regardez, qui nous écoutez sur BFM Business pour BFM Climat. Merci aussi à la COC, comme toujours, pour son aide dans la préparation de cette émission. On se retrouve donc très vite la semaine prochaine, et d'ici là, eh ben, on garde contact sur l'appli BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.